Radio Barque, 9e de la saison, 2e partie. Rebonjour Michel.
Alors, bonjour.
La candidature Pinel à la présidence semble t'inspirer au plus haut degré.
Oui, parce que Madame Pinel, Sylvie Pinel, qui a remplacé Monsieur Baillé à la présidence du Parti radical de gauche, et qui, je parle de Madame Pinel, est quand même la première vice-présidente de la grande région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, j'insiste encore.
Ceux qui ne savent pas, quand même.
Madame Pinel, tout récemment, s'est déclarée candidate en candidate libre, si je puis dire, à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire qu'elle est sortie, en fait, elle a décidé qu'elle sortait de la belle alliance populaire, chère à M. Cambadélis, et donc à la primaire de la gauche de cette belle alliance populaire. Et j'ai intitulé mon billet relatant cette petite et maigrande affaire, Madame Pinel candidate, la manip de Valls. Pourquoi ? Parce que Madame Pinel, en faisant cela et en sortant de la primaire, l'a fait dans un contexte politique très précis, qui était marqué par l'offensive à la fois de la gauche du PS, Montebourg, Hamon, en fait, j'en passe des meilleurs. Celle de Valls à Matignon et d'autres pour bloquer et dissuader François Hollande de partir à l'élection présidentielle.
Bon, ben là,
alors pourquoi
c'est,
je dis
là,
ça
c'est
parce
réussi,
que,
alors.
J'ai réussi parce que ce que les observateurs n'ont pas remarqué quand même dans cette affaire-là, c'est que le secrétaire général du Parti radical de gauche... Il faut toujours chercher l'homme quand une dame comme
oui,
ça...
Oui, d'habitude, bon, on dit chercher la femme,
exactement.
Mais là, c'est chercher
l'homme. Hein. Alors, je l'ai cherché, et je l'ai trouvé, parce que le secrétaire général du Parti radical de gauche, Jean-Claude, est un nommé Guillaume Lacroix. Et alors, c'est bien que dans un parti, un secrétaire général, ça pèse. Hein. Ce monsieur Guillaume Lacroix, est depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début du quinquennat de M. Hollande, le conseiller technique de M. Valls. De M. Valls.
Ah, un coup de projecteur intéressant.
Donc, manip est simple. Hein, donc, et elle a réussi, puisqu'on a appris, une certaine...
Oui,
dans la semaine,
on a appris.
Ouais. Que M. Hollande avait décidé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle future.
Donc là, ça serait une tactique qui a bien marché.
Qui a bien marché, d'autant que dans ces affaires-là, Madame Pinel, et on va éclaircir encore plus le propos, part de l'analyse que, ou c'était Hollande, ou c'était Valls, mais avec une préférence Valls, pour la prochaine présidentielle, et en tout cas, aucun des autres candidats, en fait, potentiels, en tout cas, bon, décidé aujourd'hui à partir à la primaire de la gauche, comme Montebourg, Hamon, bref, la gauche de la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, Jean-Claude, Valls annonçait qu'il participe à la primaire de la gauche, de la petite gauche.
Ce qui te surprendrait, Michel ?
Pas tout à fait. Et la gagner, Madame Pinel, le lendemain même, déciderait de retirer sa candidature pour soutenir Valls. Par contre, si M. Montebourg... Par hypothèse voilà. Aussi,
oui, bien sûr.
La gagner,
bien sûr, bien sûr.
Elle la maintiendrait. Alors voilà, bon, très rapidement décrit, effectivement, un scénario que j'avais rédigé,
fait, d'une
manière très
affaire
courte.
À suivre, on se
juste
souvient,
avant cette
on se souviendra de ce que tu nous as dit. Pour terminer, Michel, le tourisme du Grand Narbonne, ou le tourisme dans le Grand Narbonne, puisqu'on sait que la loi NOTRe prévoit un changement de structure.
Oui, la loi NOTRe, cette fameuse loi à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure en évoquant les initiatives de création d'institutions nouvelles de Madame Delga. Je rappelle au passage que la région Occitanie a le taux de fonctionnaires territoriaux le plus élevé de France. Je ferme la parenthèse. Il n'y a aucune relation de cause à effet, bien entendu, entre ce chiffre-là et puis ce que j'ai dit tout à l'heure sur la création de nouvelles institutions par la région. Donc, pour en revenir à ce que nous avons comme invité Jacques Bascou, le tourisme. Le tourisme est une compétence qui n'a pas été répartie par le législateur parce que trop compliqué à faire. Aujourd'hui, aucune des grandes institutions, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit les intercommunalités, n'ont une compétence clairement définie en matière de tourisme. ou plutôt on pourra dire cela, la région a la responsabilité d'établir le schéma touristique, le schéma du tourisme régional.
Ensuite, point.
Et ensuite, les intercommunalités ont la compétence tourisme en précisant. Une compétence partielle, dans la mesure où elles n'ont la compétence que d'organiser sur leur territoire les organismes qui ont en charge le tourisme, syndicats, en fait, office de tourisme et stations touristiques. Et dans ce cadre-là, précisément des intercoms, hein, à la fin du mois de décembre, les intercoms doivent effectivement mettre en place ce transfert de compétences des OTCI, des offices de tourisme, des stations à la communauté d'agglo. Ce que vient de faire le Grand Narbonne.
Dans la semaine, voilà.
Dans la semaine, avec un système à deux ou trois étages, selon qu'on prend les services propres de l'agglo, on dira trois. Si on les retire du jeu, on en dira qu'il y en a deux. Donc, création d'un établissement public intercommunal qui ne rassemblera que les stations de Fleury, de la Nouvelle et les différents offices touristiques et maisons de village comme Coursan, comme Névian, enfin bref, j'en oublie certainement, voilà. Il doit y en avoir 9 ou 10, bon, peu importe.
Mais pas d'autres, il faut expliquer pourquoi.
Quand on y transfère en fait, à cet établissement communautaire de ces établissements que je viens rapidement d'évoquer, ça veut dire transfert du personnel, transfert des bâtiments éventuellement s'il y en a, et évidemment transfert des ressources propres de ces établissements, c'est-à-dire la taxe de séjour. Et pour le reste, les stations dites classées comme Narbonne, Leucate et Grusson, j'ai regardé les délibérations du Grand Narbonne et je n'ai rien vu de particulier. Rien. Comme si, mais c'est une hypothèse peut-être stupide, hein, mais Jacques Lascou va nous m'éclairer sur le sujet peut-être. Comme si on attendait que soit votée ou pas la loi Montagne qui doit l'être très bientôt, et qui, si elle était votée, dérogerait en fait, à la loi NOTRe pour permettre à ces trois stations
dites
si elles le souhaitent,
dites classées,
de garder l'intégralité de leurs compétences. Alors, voilà, encore une fois, en fait, un contexte institutionnel et politique d'une clarté en fait, fabuleuse.
Aveuglante.
Hein, où l'on va avoir, si cela se passait ainsi, c'est-à-dire si effectivement la loi Montagne de M. Baillet, comme par hasard, là aussi, avait été votée avec cette dérogation à la loi tourisme, hein, on risquerait d'avoir, je dis le conditionnel, hein, un gros établissement intercommunal avec des petits maisons touristiques, offices de tourisme, hein, et dessous, les trois grosses stations qui, si leur maire en fait, décidait effectivement de déroger à la loi en adoptant, enfin, en prenant appui sur la loi de M. Baillet,
qui resterait
effectivement
à l'écart.
Voilà, effectivement, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui fait qu'il est vrai, hein, pour un président d'agglo en charge de ce genre de questions, ça doit être quand même compliqué, effectivement, à gérer.
Voilà. Eh bien, nous allons savoir dans une troisième partie, puisque nous marquons une pause et nous retrouvons notre invité de ce Radio Barque, Jacques Bascou, qui, je le rappelle, est le président du Grand Narbonne.